Des oreilles avec des trous
dedans.
Numéro 22.
Vous êtes sûr, hein?
Ouais.
Y a pas de flic dans le coin?
Non. Présenté par non, ce soir, je sais pas. Peut-être.
Il y a trop de voitures à éteindre.
En tout cas, c'est une émission libre.
C'est une émission libre.
Absolument.
On passe ce qu'on veut. Y a pas de thème.
Elle est présentée par les DD.
On est libre.
Représenté par les DD, réalisé par le DD.
Et c'est spécial pour les auditeurs de Radio Bazar Nahum.
Voilà, bonsoir les auditeurs de Radio Bazar Nahum.
Alors ben, c'est moi qui commence. Je me
Alors,
suis fait
ben, ouais.
une sorte de thématique interne.
Toi aussi, ouais. C'est marrant, on a tous des thématiques internales.
Oh, bah ouais, alors je vais vous passer des chansons ce soir.
Voilà. Oh, c'est
Et
chouette.
On va commencer avec des Marseillais. Écoutez bien les paroles, ça vaut son pesant de cacahuètes.
Des visages dans un monde étrange, elle se transforme et change. Miss Margaret Stanley, petit carré de buvard mâché. Je la peigne dans l'extase, mais le temps d'un éclair et elle plonge en enfer. Miss Margaret Stanway, sous l'effet d'acide hallucinogène.
Qu'est-ce que c'est que ces mecs inspirés par des bouts de buvard mâchés?
Ouais, bah écoute, c'est un groupe qui s'appelle, qui s'appelait les 5 Gentlemen.
Les 5 Gentlemen.
C'est un groupe bien de chez nous, des années 60.
Ouais.
Ça, c'est sorti en 65 et ça s'appelle LSD 25.
Wow.
La chanson. Miss Margaret Stanway. Voilà,
on est en
pleine période psychédélique. Les Français s'y mettent aussi.
Est-ce que vous connaissez Chrysler Rose?
Non.
C'est pas eux qui ont fait ça. Je n'ai jamais su qui avait fait cette chanson.
Alors, eux ont fait un tube qui s'appelait Dino Dylan.
Ouais.
Qui est bien débile aussi. Et bon, ils sont pas très connus, mais j'ai trouvé ça sur une compile qui est sortie sur un label canadien, qui a ressorti leur plus grand succès.
Ah ouais.
Ouais. Et alors, ils ont changé de nom, ils ont commencé, ils s'appelaient Les Ambitieux.
Mmh,
et
pas
puis,
bien.
Non, ils sont devenus Les 5 Gentlemen, c'est
pas mieux.
Tellement mieux. Et ils ont tourné aux États-Unis, et là, ils s'appelaient Darwin's Theory.
Mais. Il n'y a pas eu un... Ah oui, Darwin's Theory. Il y a eu un film récemment qui ne s'appelait pas comme ça.
Le cauchemar de Darwin.
Le cauchemar de Darwin.
Ouais, pardon. Non, ça n'a rien à voir.
Ouais, d'accord. Enfin, c'est...
Bon, voilà, c'était pour commencer l'émission un peu ambiance.
Très bien, on écoutera quelque chose d'autre bien psychédélique tout à l'heure, après...
Bon, là, On va écouter quelque chose de très différent. Moi aussi, j'ai une petite thématique interne. J'avais amené 5 morceaux, comme c'est quelque chose qu'on fait souvent, d'amener un peu plus de morceaux et puis de sélectionner au dernier moment. Et je me suis aperçu que j'avais 3 morceaux sur une sorte de qui avait rapport à la circularité, au rond, au cercle, etc. Et c'est drôle aussi parce que la semaine dernière, on faisait une émission sur le cirque.
C'est ce que j'allais dire. Tu aurais dû ramener ça la semaine dernière.
Oui, mais non. Enfin, là, c'était ça bien. Ça n'a rien à voir avec le cirque, mais plutôt avec l'idée du rond et du cercle. Donc là, on va écouter un opéra en fait. Que j'adore, qui est un de mes opéras préférés du 20e siècle.
Lequel?
Et qui s'appelle The Turn of the Screw, le tour d'écrou. Donc de Benjamin Britten, n'est-ce pas? Voilà, et c'est un opéra qui est notamment remarquable pour l'orchestration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orchestre, en fait. C'est un petit ensemble de chambres, tout par un. Donc les bois par un, le un bois quatuor par un. À cordes.
Tu veux dire que le quatuor à cordes, il n'y a qu'une corde?
Ben, par instrument.
Oui, voilà, non, mais il n'y a pas une section de premier violon.
Une corde par instrument Non, c'est très original.
Voilà, et donc c'est un opéra qui est dont le livret est basé sur un roman de Henry James, qui s'appelle donc Le Tour d'écrou. Et on écoute la scène qui s'appelle The Lake... Et on l'écoute tout de suite. Turn of the screw.
Thank you.
sais pas ce que vous pensez de l'instrumentation.
Moi,
mais
ça
je
me plaît énormément.
Incroyable.
Ouais, c'est très beau, très beau.
Me plaît énormément. Ouais. C'est donc de quand est-ce qu'il date cette opéra?
Alors de 1954.
Ouais.
1954. En fait, Benjamin Britten a été très connu. Enfin, a fait un opéra vraiment célèbre qui est Peter Grimes.
Ouais.
Et qui est là assez différent parce que c'est vraiment avec un orchestre énorme. Mmh. Et après, il a écrit beaucoup d'opéras de chambre, on pourrait dire. Et celui-là est pour moi, enfin pour beaucoup de gens aussi, vraiment un chef-d'œuvre.
Et
c'est une histoire fantastique.
Aussi,
ouais, alors il y a des voix d'enfants en fait qu'on entendait. C'était donc les deux personnages principaux sont deux enfants, Flora et Miles, et qu'on entend et là qui prennent une leçon de géographie avec la gouvernante. Et c'est une histoire de fantôme en fait. D'ailleurs, je recommande la lecture du roman d'Henry James, qu'Henry James n'aimait pas trop, mais qui est quand même assez excellent. Mais on n'est pas là pour parler de littérature.
Ouais, alors moi, je vais en profiter pour dire un truc. Je vais passer pour un gros con ou un rustre, mais l'opéra, ça m'a toujours fait chier, parce que j'ai jamais réussi à. Je peux pas supporter la façon de chanter dans l'opéra, quoi. Cette espèce de gimmick de la musique classique, de chanter à fond avec des espèces de vibrato incroyables, ça m'a toujours bloqué.
Ouais.
Et là, je trouve ça magnifique. Et quand elle commence à chanter, je décroche. Ça y est, j'arrive pas, quoi. J'ai l'impression de me retrouver au guignol, quoi.
Bon, ouais, c'est écoute, alors moi c'est vrai que j'ai aussi des problèmes avec l'opéra, le bel canto, l'opéra italien, je supporte pas.
Ah oui, d'autant plus là, c'est quand même nettement plus acceptable pour
écoute,
moi.
Écoute, l'enfant et les sortilèges par exemple de Ravel, enfin ça dépend des interprétations, mais il y a beaucoup plus de jeux vocaux, de choses un peu qui sortent un peu de la technique classique pure et dure.
Ouais.
Et puis aussi bien sûr, on en a déjà parlé plein de fois, mais Kurt Weill aussi a utilisé justement les méthodes, enfin du moins a écrit des opéras qui sont faits pour être chantés justement par des voix tout à fait absolument pas classiques, pas trop travaillées.
Je préfère beaucoup ce genre de choses. Ouais.
Voilà.
Bon, enfin très grande musique quand même.
Ça me donne envie d'en écouter plus. Mais qu'est-ce qu'il y a comme chose à écouter? C'est terrifiant.
Le problème de cette émission, c'est qu'on finit par écouter que de la musique et puis on bouffe plus, on fait plus rien.
Donc, on va enchaîner avec. Je vais pas vous le cacher. On en a déjà écouté un extrait. C'était pas cet album-là, mais un album de Hurricane à propos de. Donc écrit sur la base de la musique de Gustav Mahler. En l'occurrence, il y a sur ce morceau, j'avais pas au départ l'intention de le passer dans des oreilles avec des trous, mais il y a un morceau qui m'a complètement fasciné dès la première écoute et que j'écoute en boucle depuis, dans lequel il y a notamment le vocaliste qui s'appelle Joseph Birbichler, qui est un Allemand, qui a chanté, qui est un acteur à l'origine et qui a chanté, que j'avais moi déjà entendu dans Heisler Material, qui est un disque de Heiner Goebbels, qui est basé, lui, qui est aussi une espèce de réécriture de la musique de Hans Heisler, et qui est pour moi le meilleur disque de Goebbels, parce que lui, en tant que compositeur, pas toujours passionnant, mais ce type-là a une voix absolument phénoménale, et là, sur ce disque, je suis persuadé, absolument persuadé, que Hurricane l'avait entendu sur cet album de Goebbels avant de lui demander de participer à ce disque sur Mahler, parce que il a une voix très très étonnante. On va l'écouter tout de suite.
In einem tiefen Tal, Kuckuck und Nachtigall, täten ein Bett anschlagen, zu singen und das Meisterstück. Gewinn des Kunst, Gewinn des Glück, Dank soll er davon tragen. Der Kuckuck sprach, so's dir es gefällt, hab ich den Richter weg. Gleich den Esel nennen, denn weil er hat zwei Ohren groß, Ohren groß, Ohren groß, so kann er hören, desto groß und was recht ist kennen. Augen vor den Richter bald. Wie dem die Sache war, erzählt schuf er, sie sollten singen. Die Nachtigall sang lieblich auf. Der Esel sprach, du machst mir's Chaos. Hi-ha! Hi-ha! Ich kann sie Kopf nicht bringen. Nur Bart, 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 ein Urteil will ich sprechen, ja sprechen. Gesungen hast du Nachtigall, aber Kuckuck sind gut Choral und hetzt den Tag bei ihnen, da spreche ich nach meinem Hohnverstand, 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 du kostest gleich ein ganzes Land, so lass ich dich gewinnen, gewinnen.
Très fort ce Hurricane.
Et vraiment très fort.
Ouais, alors pour rappeler à nos auditeurs, Hurricane est un pianiste new-yorkais de jazz.
Absolument.
Qui a réuni d'autres musiciens de la scène downtown de New York pour interpréter ses relectures du répertoire de Gustav Mahler.
Alors on entend les musiciens en vrac. Il y a ici donc Jim Black, pour ceux qui le connaissent, on l'a reconnu dans ce solo de batterie accompagné de samples.
Ouais, on en a pas mal parlé déjà de Jim Black dans cette
émission. Il y avait Don Byron également, et puis beaucoup de différents chanteurs qui chantent chaque morceau dans des langues différentes. C'est assez étonnant comme disque. Il y a Michael Formanek aussi, David Gilmour à la guitare. Enfin bref, j'en passe,
c'est
des meilleurs.
Et en fait, c'est quoi la pièce de Mahler qui est entendait?
Écoute, le livret ne m'en dit pas plus que.
Il était question d'oiseaux.
Alors il est question d'un dialogue entre un coucou et un rossignol. Voilà. Le morceau s'appelle In Praise of the Lofty Judgment. En allemand, des Knaben Wundenhorn, Lob des Hohen Verstands.
Oui. Le corps merveilleux de l'enfant. Enfin, en général, c'est traduit comme ça.
Oui. Et c'est tiré de, tu sais.
C'est un cycle de mélodies qui s'appelle comme ça.
D'accord. Très bien. Voilà. Merci Dédé.
Bien. C'est à moi de poursuivre à toi, André?
Oui, c'est à moi.
Oui, non, mais j'avais eu l'impression que les regards se tournaient vers moi, je ne sais pas pourquoi.
Il vous a pas
peut-être
fait un effet
paranoïa.
Boss,
non, c'est ta beauté naturelle, c'est ton charisme, ton aura. Alors, moi, je vais continuer. Alors, je m'excuse un peu parce que cette émission a pour principe quand même de passer des musiques un petit peu atypiques ou des choses qu'on n'entend pas toujours sur les radios FM. Et là, c'est un truc qu'on a pu écouter, je pense, sur certaines radios
FM.
FM. C'est un chanteur français qui a fait un disque, je trouve, tout à fait magnifique.
Continent à la dérive, qui m'aime me suivre, gouffres avides. Tendez-moi la main. Rêves et ravins, règle nos moulins, cale nos chagrins. Le temps écrit sa musique sur des portées disparues, et l'orchestre aura beau faire pénitence, un jour j'irai vers l'irréel, tester le matériel, voir à quoi ça donne la madone. Un jour j'irai vers une ombrelle, y seras-tu? Y seras-tu? Y seras-tu? Continent à la dérive, une vague idée me guide, c'est l'heure où je glisse dans les interstices, à l'article de l'amour, je redeviendrai l'enfant terrible que tu aimais. Un jour j'irai vers l'irréel, un jour j'irai vers une ombrelle. Y seras-tu? Y seras-tu? Y seras-tu?
Eh oui.
De qui s'agit-il? Excusez-moi, j'ai pas reconnu.
D'Alain Bachung.
Ah, Alain Bachung.
Tu l'as pas reconnu, Alain Bachung?
Non, mais non.
C'est vraiment gonflé.
Ouais, mais vous savez que j'écoute très peu de chansons. En fait, j'ai un gros problème comme toi avec l'opéra. Moi, c'est la chanson. J'en écoute quasiment jamais.
Ah ouais, c'est dommage. Ouais.
Oui.
En tout cas, cet album, vraiment, je sais pas si t'as.
Ah bah là, j'ai.
Écoute l'album.
Aimé, ouais.
C'est un album que moi, je trouve fabuleux, quoi. J'ai rien acheté. Moi, je l'ai écouté en boucle. C'est hyper bien fait. C'est très bien produit. C'est les textes sont super.
Alors enfin, moi, je suis parfois très très touché par ces images et parfois je trouve qu'elles tombent complètement à plat. Je parle du texte.
Ouais, ouais.
Mais dans tous les cas, je trouve que c'est effectivement un très beau disque. Je pense que je préfère Fantaisie militaire,
ouais.
Quand même, malgré tout. Mais c'est quand même un disque très 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 sérieusement produit, hyper intéressant. Je sais pas, il a fait participer des tas de gens,
ouais, ouais.
De son propre aveu. Je crois que c'est de la prod, la post-prod à en crever.
Quand ouais,
ça a
ouais,
été
c'est
enregistré
léger, ouais.
dans 12 studios différents, ouais. Mixé, monté.
Ouais, puis c'est entouré de gens autant pour les textes parce que c'est pas lui qui écrit
c'est
tout.
C'est Jean Fauque ouais, qui écrit les
ouais.
textes.
Et en fait, parfois je me demande un peu ce qu'il fout là-dedans parce que finalement c'est pas lui qui fait la musique ou
oui,
très
puis
peu,
il,
c'est pas
il
lui
parle
qui fait
presque.
Les textes.
Voilà. Si les textes, il y participe quand même ouais. Activement. Mais non, c'est un très beau disque. Je suis ouais. tout à fait. C'est marrant que tu aies amené ça.
Il y avait l'accompagnement, enfin la musique, c'était beaucoup d'électro.
Oui, enfin.
C'est beaucoup de bidouilles. Il y a des
ouais,
bouts d'électro,
des
il y a
ouais,
des pianos, il y a des cordes, il y a plein de choses. Et...
Ben ouais.
C'est des mélanges.
Bon, je disais ça parce que on va continuer par quelque chose avec quelque chose de
quel enchaînement.
Alors
ouais,
le roi de la transition.
Le roi de la transition.
T'as fait des progrès depuis la dernière fois, dis donc.
Ouais, mais j'ai
t'as bossé.
Bon, j'ai travaillé toute
bah
la
ouais,
semaine.
Je pense que t'as appris à retourner les crêpes que Dédé avait dans les mains la semaine dernière.
Dans le rêve de Stéphanie. donc. Oui, alors je continue dans ma thématique, je continue à tourner en rond avec un morceau qui s'appelle Cycloïde et qui est de l'électro en quelque sorte. Off.
Pendant que Dédé faisait des exploits sportifs, on écoutait quoi là?
Alors,
éclaire-moi.
Alors, Dédé a reconnu.
Ouais, j'ai reconnu. Je suis fort.
Je suis vraiment étonné parce que ce disque vient de sortir et je suis assez
vert.
Il est possible que ce groupe ait fait plusieurs disques. Et alors, ce qui est vraiment
tu m'en apprends de bonne.
Vraiment marrant, c'est que j'étais à deux doigts de ramener un morceau de ce groupe.
Bon, qui est-ce? Allez-y.
Alors, ce sont des Français, c'est Guillaume Morty, si je me trompe pas,
exactement,
c'est ça, au saxophone, en fait. Et Olivier Sens, au
c'est bidouille. Pas vrai.
Ordinateur, bidouille
ah
et
bon
compagnie.
Voilà, donc ouais. C'est lui qui traite en direct le saxophone de Guillaume Morty par des ordinaux.
Ouais. Il le traite en direct?
Je crois que c'est le principe, ouais.
C'est complètement délirant.
En fait, donc Olivier Sens qui est contrebassiste.
Oui, qui joue faux,
ouais.
D'ailleurs.
Comme, bah là, ça va. Là, c'était pas gênant.
Super sympa.
Donc, Olivier Sens qui est un connard qui joue faux. Non, apparemment, il a développé lui-même ses propres logiciels pour pouvoir de traitement de son en direct, développer sa musique.
Non, mais il joue pas faux tout le temps. J'ai écouté un jour un disque que je ne citerai pas où j'ai trouvé limite, mais c'est un mec qui a fait beaucoup de trucs.
Une pointure, comme on dit.
Ouais, ouais. Ah ouais, bah dis donc, Guillaume Morty et Olivier Sens.
Voilà, c'est un duo qui, ça fait un bout de temps qu'ils travaillent ensemble et qui font des choses intéressantes.
Guillaume Morty qui faisait partie, je crois, du collectif Hask,
ouais.
dont fait aussi partie Benoît Delbecq, voilà. dont ouais. nous donc avons déjà parlé.
Ouais. Ouais.
Alors Guillaume Orti, moi je dois dire que je l'ai vu deux fois en concert et qu'il m'a vraiment fait chier.
Ouais, et pourtant c'est en tout cas un saxophoniste assez incroyable sur le plan
les pauvres
ça balance hein.
Technique et puis
non mais c'est
c'est créatif.
Oui
aussi.
Bien sûr, il joue
mais
très oui, bien comme plein de mecs qui ouais. jouent très bien, c'est pas le problème. Mais moi j'avais trouvé ça très froid et intello ce que j'avais vu en concert ouais. deux fois. Alors
c'était bah ça aussi c'est pas assez froid et intello d'une certaine façon.
Ouais mais bon en l'occurrence là un morceau ça m'a ouais. bien plu ouais. et j'aime ce qui est assez j'ai bien aimé le moment où on reconnaît on commence à sentir un vague son de saxophone parce qu'il est quand même très traité au départ le son ouais. du sax. Et non c'est un chouette morceau. En fait, je pense que ça va me réconcilier, je vais écouter plus ce duo Olivier Sens Guillaume Orti, ça va peut-être me réconcilier avec ce saxophoniste emmerdant et ce contrebassiste qui joue faux.
Oh la vache.
Oui, bien, bah, je veux bien que tu me passes ce disque.
On va se nettoyer les oreilles. Enfin, je vais vous nettoyer les oreilles.
Elles sont pas sales.
Follow trails of you in the rain.
Voilà la danse des pachydermes.
Qu'est-ce que c'est
dont on parlait la semaine dernière.
Ouais. Et quel est cet instrument de percussion qu'on entend derrière? Est-ce que
je
c'est
sais pas, des... ça doit être des congas.
Ça de ressemble djembé, pas. Ouais. Ça me fait penser. À... Vous savez cet instrument, je crois que c'est africain. C'est des lamelles de bois très rigides sur une caisse. Les lamelles en fait sont découpées dans la caisse elle-même.
Ah,
ça,
oui,
ça vous dit
oui,
quelque chose?
Je vois très bien ce que c'est.
Ça sonne un peu comme ça, non?
Oui, un peu, ouais.
C'est un peu étonnant dans ce contexte.
Ouais,
mais bon, ça peut être autre chose. Ça me fait vaguement penser à ça.
Mais... Ouais, je sais pas ce que c'est comme instrument en l'occurrence, mais effectivement, je sais pas comment ça s'appelle ça.
Et tu sais ce que c'est comme groupe?
Alors, c'est un morceau d'un album qu'on a déjà écouté, sauf que c'est un album divisé en deux. C'est le split album de Kaios et Queens of the Stone Age.
Ah. Mmh.
Kaios est devenu, en l'espace d'un an, un autre groupe en ayant changé de musicien plusieurs fois, toujours regarder la tête pensante Josh Homme qu'on entend chanter là. Queens of the Stone Age avait maintenant un succès planétaire, ils se font des paquets de ronds, des gonzesses et des tournées mondiales. Ce morceau s'appelle Born to Hula
et tournante.
Et voilà, oui. Et voilà, c'était donc le batteur c'est Alfredo Hernandez, le dernier batteur de Kaios, qui est pas spécialement spectaculaire, mais enfin le son, voilà, c'est pachydermique. En même temps, c'est un morceau que j'ai toujours bien aimé, que je trouve très, j'avais un mot qui allait sortir et j'ai pas osé, mais très couillu.
Non,
André, on avait dit qu'on arrêtait ces conneries là.
Qu'on arrêtait les histoires de.
Et j'aime bien cette voix avec phaser là, comme ça, un peu éthérée. On sait pas trop s'il chante en puissance ou si au contraire il pose sa voix sur un monstre. C'est assez bizarre. Voilà.
C'est qui est-ce qui continue?
J'en sais rien. C'est à moi. Oh merde. écoutez, moi je vais continuer donc dans ma rubrique interne de chansons et avec quelqu'un qui a joué sur l'album d'Alain Bashung, comme quoi les transitions, moi aussi je les ai travaillées.
Alors, qui c'est ma poète ? Playing there.
Moi, il a reconnu. Il a reconnu Dédé.
Il a reconnu Dédé ou l'a pas
ouais,
reconnu.
Bah oui, c'était Marc Ribot.
Ah bah voilà,
bravo. Alors Marc Ribot, qui est un peu connu en France parce qu'il a joué sur pas mal d'albums d'Alain Bachung, guitariste.
Ouais, il a un nom français aussi. Donc ça.
Il a un nom français, donc il y a même des cons qui croient qu'il est français, mais en fait, c'est un mec des États-Unis d'Amérique.
Des New York.
Ouais, je sais pas s'il est New Yorkais, ouais, peut-être.
Je pense.
Ça se trouve, si je lis mes notes, je vais trouver où il est né, en quelle année.
Mais ouais, mais t'as 30 pages.
On s'en fout un peu. Bah ouais, c'est le problème. En plus, en anglais, je comprends pas très bien.
Voilà, ouais.
Bon, c'est quelqu'un qui s'est rendu connu aussi en jouant pas mal avec les Lounge Lizards et puis avec une ribambelle de gens. C'est un espèce de guitariste caméléon qui vient du rock, mais qui a joué aussi du jazz.
Qui est un peu dans la galaxie John Zorn aussi, un peu.
Ouais. Comment s'appelle cet album? Parce que je l'ai, mais je
alors,
me souviens pas.
J'aime bien, j'adore le titre de cet album, ça s'appelle Requiem for What's His Name.
Oui. C'est pas là-dessus qu'il y a une version de Caravan absolument détonnante?
Non, c'est pas là-dessus. C'est que des compos à lui sur l'album. C'est la seule chanson de l'album où je pense que c'est lui qui chante. C'est un morceau un peu répétitif, mais j'aimais bien son côté un peu déglingué.
Ouais.
On reconnaît un peu sa patte aussi parce qu'il a beaucoup joué avec Tom Waits.
Oui.
Et je crois que j'avais passé, ouais, ça me revient maintenant à Marc Ribot dans une précédente émission où c'était une reprise de Black Trombone de Serge Gainsbourg.
Monotone. Ouais.
Voilà, Marc Ribot, mon espèce de caméléon qui a fait des choses très très différentes. Il a fait aussi, il s'est rendu connu en faisant des albums avec des Cubains, Los Positivos Cubanos.
Exact.
Il a fait deux albums avec eux, musique cubaine. On aura d'autres occasions d'écouter des trucs de lui. Moi, j'aime bien.
Ouais.
Ce qu'il fait.
Et là, on va écouter un pianiste américain.
Oh, ouais.
Et donc, toujours dans la thématique du rond et du cercle et de ce qui tourne, un morceau qui s'appelle « Round She Goes ».
Mais on passe beaucoup d'Américains, quand même.
Oui, on passe aussi beaucoup de Japonais, des Français.
Ouais, mais des Uruguayens.
Et la semaine prochaine, ça va être pire parce que la thématique, ce sera New York.
Ouais, la semaine prochaine, ça sera New York.
Vous allez en prendre plein la gueule des Américains.
Ouais.
Allez, les Américains. Thank you. Merry-go-round.
Ouais, round she goes. Donc tu as reconnu André, il s'agit de Mark Copland. Alors il y a, alors d'abord, je me fais une remarque là. J'ai l'impression que, enfin, dites-moi si je me trompe, mais c'est la première fois qu'on passe du piano solo, non?
Ouais, ouais, ouais.
Bon, voilà.
Mais j'adore le piano solo.
Voilà. Et Mark Copland est vraiment
un
des grands pianistes, je pense, d'aujourd'hui. Et alors, ce qui est vraiment amusant, c'est que en fait, il s'est fait d'abord connaître. Enfin, il n'a pas été célèbre. Mais il s'est d'abord fait connaître comme saxophoniste. C'est un saxophoniste qui un jour a décidé de se consacrer exclusivement au piano. Et voilà, avec ce résultat.
Oui. Est-ce que c'est du 15-8 ce qu'on a écouté?
Pourquoi tu demandes ça?
Non, pour savoir si vous avez suivi un peu. Si
ouais,
vous
non,
avez
c'est
compté.
Pas du 15-8, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'ambiguïté rythmique.
On a l'impression qu'il se décale d'une croche. Bref.
C'est moi, j'ai pas trop cette impression, mais enfin, ouais, effectivement, entre la main gauche et le motif d'en haut, il y a effectivement une grosse ambiguïté. Ouais. Et voilà, et il paraît que, alors bon, moi, je suis pas pianiste, mais les pianistes se pressent à ces concerts et ont les yeux fixés sur ses pieds parce qu'il paraît que il a un jeu de pédales absolument
qu'on entend très bien d'ailleurs.
Extraordinaire et très raffiné, qui maîtrise
comme Lance Armstrong un peu.
Ouais ouais ouais.
Comme Lance Armstrong, effectivement.
Un bon coup de pédale. Ouais, ouais. Voilà. Un album qui s'appelle Time Within Time et qui est sorti très récemment chez je sais plus, peut-être Hatology ou j'ai pas le disque sous les yeux, je l'ai oublié.
Ouais, vous trouverez les
voilà.
références sur
enfin, très facile à trouver
sur notre site où il y a toutes les références. Et une question, c'est avant que Dédé n'enchaîne, est-ce que c'est un album où il y a que du piano solo.
Que du piano solo, du début à la fin.
Ah, c'est cool, c'est mieux que le Cohen Concert alors.
Ouais, en l'occurrence, oui, ce disque est très très beau et ouais, à mon avis. Yeah! We'll be right back.
now what?
Et voilà.
Ouais, moi l'opéra, ça m'a toujours intéressé.
Alors, ce gros pachyderme blanc adipeux avec une toute petite voix nasillarde, c'est David Thomas, très connu par son groupe Père Ubu, qui est un groupe de qui est classé comme avant-rock ou post-punk.
C'est des Français alors ?
Non, pas du tout.
Père Ubu, non.
Père Ubu, c'est un... Non, pas du tout. C'est un groupe qui... enfin, espèce de post-punk un peu expérimental, qui n'a strictement rien à voir avec cette musique, que dont je passerai peut-être un morceau, mais quoique je ne les connais pas très très bien. Ce disque s'appelle Rocket from the Tombs. C'est le nom du groupe, mais en fait c'est une reformation du groupe que ce type avait dans la fin des années 60. Mmh. Et donc ils prennent à 45-50 ans un malin plaisir à jouer un rock bien débile. Et ça fait, voilà, on était quatre là, on bougeait la tête comme des cons.
Et donc là, c'est le groupe qui s'appelle Père Ubu ou...
Non, pas du tout, c'est Rocket from the Tomb.
Ah oui,
c'est une reformation de vieux potes.
D'accord.
Qui ont rejoué les vieux morceaux qu'ils jouaient fin des années 60.
D'accord.
Alors que depuis, ils ont fait des choses très expérimentales. Mmh. Et notamment, David Thomas est repassé, il y a pas très longtemps, au Nouveau Casino à Paris. Il jouait, il était à la guitare et au chant, il jouait avec un trompettiste en duo.
D'accord.
Donc des trucs assez bizarres. Voilà. Il a une voix quand même assez incroyable.
Bon, on faudrait peut-être penser à finir là l'émission.
Allons-y.
Ouais, on arrive à la fin. Je vous propose un morceau qui va nous servir de générique de fin. C'est une chanson, c'est des papous, et il n'y a rien d'autre à rajouter. C'était des oreilles avec des trous.
Des oreilles
dedans.
Avec des trous.
Te moque pas. Raciste.
Non, mais enfin, arrête, faut pas déconner quand même, André. C'est pas de la musique, ça.
Ce sont des papous de Nouvelle-Guinée.
Ce sont des papous de Nouvelle-Papouasie.
Nouvelle-Papouasie,
Nouvelle-Guinée.
D'accord. Voilà. Des oreilles avec des trous dedans.
Dedans, c'était la 22e et la 23e, ce sera la semaine prochaine, ce sera consacré à New York.
New York.
New York City.
À la semaine prochaine.
Bonsoir.